tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Wildcard avec quelqu'un je pense que vous connaissez bien, c'est Julien Beneteau. Julien Beneteau qui a quand même été médaillé olympique, qui a remporté Roland-Garros en double bien sûr, et qui aujourd'hui est à la tête de l'équipe de France féminine de tennis et qui a d'ailleurs gagné une Fed Cup avec ses filles. Julien Beneteau, il adore le sport, il adore en parler et vous allez vous aussi adorer l'écouter. Bonjour Julien Beneteau.
Bonjour Marie.
Comment ça va ?
Très bien, merci.
Ça va bien, ouais. Tant mieux. On a une question rituelle pour commencer Wildcard. On voudrait savoir ce que tu faisais avant d'arriver ici en studio.
Je suis allé faire du sport. Je suis allé faire du sport pour être bien en forme et prêt pour enregistrer cette émission.
C'est bien, mais ça voilà. Se voit, tu as une mine resplendissante.
Merci.
Tu fais du sport régulièrement ?
Ouais, j'essaye. Je fais 2-3 fois par semaine, j'essaye.
Voilà. Bravo. Qu'est-ce que tu fais comme sport ?
Alors, c'est assez light, j'ai du mal à me mettre dans le dur, parce que je me suis mis dans le dur pendant longtemps. Mais non, je fais un peu de cardio et quelques exercices que je faisais quand je jouais pour essayer de me maintenir en forme, pour éviter justement d'avoir des douleurs quand je retape la balle de temps en temps, ce qui est rare, et de me sentir pas trop mal.
Est-ce que tu t'es mis au paddle comme tous tes copains du tennis ?
Pas tant que ça. Pas tant
que ça. T'es un des rares à pas trop aimer ça.
Ouais, j'aime bien, mais c'est pas. Quand je joue, ça me fait faire du sport avec des copains, je suis content. Mais ouais, j'ai pas le virus où je vais me dire, tiens, ou de faire des kilomètres pour aller trouver une piste de paddle de libre ou quoi que ce soit. Non, j'en suis pas encore là.
T'as pas essayé le pickleball ?
Non,
jamais. Aux États-Unis ?
Ouais. Pas jamais, j'ai vu des images, je suis assez interloqué. J'aimerais essayer pour voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est aux États-Unis, ça prend une ampleur assez incroyable.
C'est très marrant.
Ouais, je sais.
Même moi qui suis très nulle au tennis, c'est
très marrant. T'as été très forte au pickleball.
J'ai été super forte au pickleball. Et c'est plutôt sympa. Dans des décors, en plus, on peut jouer un petit peu n'importe où, quoi. C'est ça qui est sympa. On va revenir rapidement sur l'actualité parce qu'il se passe pas mal de trucs, même si on est en vacances en tennis. Paul-Henri Mathieu a été nommé entraîneur de la Coupe Davis, de l'équipe de France de Coupe Davis. Ton avis sur cette nomination, c'est quelqu'un que tu connais bien, Paul-Henri.
Ouais, on est de la même génération. Je pense que c'était un choix assez logique. Il était dans le staff de Sébastien Grosjean. Il est au sein de la fédération depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et je pense qu'avec certains joueurs, il a créé du lien. Et pour une transition qui va peut-être durer ou pas, on verra. Mais en tout cas, pour être dans la continuité avec les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire, le fait que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà l'équipe, qui connaisse pas mal des membres du staff, même s'il va faire quelques ajustements, et les joueurs qui sont concernés, c'est bien qu'il n'y ait pas eu... C'était difficile de repartir sur quelque chose de nouveau en sachant que en plus fin 2024 pour tout le monde les cartes peuvent être battues parce que le calendrier des fédérations impliquera de nouvelles élections, donc ce sera au président élu, soit le sortant ou un nouveau, de renommer des équipes, de s'appuyer sur ce qui a été fait ou de vouloir changer. Donc voilà, il y a plein de choses à mon avis qui rentrent en compte et qui ont fait que voilà, la nomination de Paul-Henri était quelque chose de logique dans la continuité.
T'as fustigé d'ailleurs Gérard Piquet aussi sur ce format de Coupe Davis qui n'en finit plus de faire parler et de décevoir finalement. Toi, tu es capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Est-ce que malgré ce format qui est loin d'être parfait, c'est un plaisir d'être capitaine d'une équipe de France de Fed Cup ou de Coupe Davis?
Oui, ça reste un vrai plaisir, un vrai, comment dire, une vraie responsabilité, surtout comme quand on a été joueur et qu'on a mis les équipes de France toujours en avant et en priorité. C'est ce que j'ai dit la dernière fois où on s'est retrouvé à Séville pour la phase finale de la Billie Jean King Cup. À la fin, quand on a fait le débrief, je leur ai dit, quel que soit le format, quel que soit où on joue, contre qui, quand la semaine commence, il y a toujours cette excitation, cette adrénaline qui monte pour essayer de tirer le meilleur de notre équipe et d'aller le plus loin possible, de vouloir être performant, de vouloir d'être ambitieux pour elle. Et ça, quel que soit le format, ça reste.
Et c'est dur pour elle ?
Je sais pas. Oui, quand on a la chance de jouer des rencontres sur le format traditionnel, on joue un premier tour sur le format traditionnel. L'année dernière, on a joué en Grande-Bretagne. Cette année, on va jouer en France contre la Grande-Bretagne de nouveau. On voit ce format de deux jours déjà, qui est intéressant au niveau de l'aspect tactique et de l'aspect stratégique dans la composition d'équipe. Et puis, au niveau des ambiances, le fameux home and away, il est primordial. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui s'élèvent contre ça de plus en plus. Maintenant, c'est aux instances de travailler ensemble. On entend des choses à droite à gauche, comme quoi sur 2025, il y a des solutions, d'autres formats qui sont sur la table. Mais encore une fois, on a l'impression que du côté de l'ITF, c'est assez opaque et ils ont du mal à donner toutes les informations et toutes les options possibles.
C'est un peu frustrant, non? Justement, de ne pas pouvoir dire « mais ça ne marche pas ». Enfin, on le voit que ça ne marche pas.
Ouais, mais eux, ils disent que ça marche.
Ah, d'accord.
Pour la Coupe Davis, ils trouvent toujours un truc. La phase finale de cette année à Malaga s'est plutôt bien passée, faut le reconnaître. Mais les arguments qu'ils utilisent pour dire, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués, etc. On peut aussi les contrer et c'est pas grave si sur une finale de Coupe Davis, ça n'intéresse entre guillemets que deux pays. Ça a intéressé plein de pays avant, les 16 du groupe mondial. Et une finale, une finale d'une Coupe du Monde. Voilà, si dimanche prochain, c'est France-Norvège au handball, la finale de la Coupe du Monde de handball, ça va intéresser la France et la Norvège. La Roumanie, la République tchèque, ils vont plus s'en soucier. C'est comme ça. Le format home and away, c'est ce qui a marché, c'est ce qui a donné l'essence même de ces deux compétitions, la Coupe Davis et la Fed Cup. Et il faut absolument qu'on retrouve des formules où la majorité des rencontres se jouent sous ce format-là.
Exactement, on est bien tous d'accord. Le retour de Raphaël Nadal aussi, qui s'entraîne avec Arthur Fils, inusable Raphaël Nadal. On est quand même content qu'il revienne parce que ça ne pouvait pas se terminer comme ça.
Ouais, je pense qu'il a pris vraiment le temps sur cette année 2023 pour se refaire une santé, pas précipiter son retour. Il a un stade de sa carrière où les objectifs sont de plus en plus ciblés. Et donc, s'il a décidé de revenir sur la tournée australienne dès le mois de janvier, c'est que physiquement, il se sent prêt. Et avec ce genre de joueurs, à partir du moment où physiquement, ils sont prêts, on peut s'attendre à ce qu'ils soient très compétitifs.
Il peut encore gagner un grand chelem.
Oui, bien sûr.
Ah oui? Malgré tous les soucis qu'il a pu avoir. Ah ouais. Ce serait magnifique.
Ouais, ils l'ont tous fait. Djokovic le fait encore. Federer l'a fait à 36-37 ans à l'Open d'Australie après avoir été opéré du genou. Il revenait, il a gagné. Je ne sais pas s'il va gagner l'Open d'Australie parce que Djokovic à l'Open d'Australie est quand même très, très, très dur à battre. Je pense qu'il a plus Roland-Garros et les Jeux Olympiques en ligne de mire et en tant qu'objectif. Mais oui, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il regagne.
À suivre. Donc, on est là pour parler de toi, Julien. On a beaucoup parlé des autres. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce que tu as démarré le tennis? Comment le tennis est entré dans ta vie?
J'ai commencé assez tôt à taper la balle dans le salon de l'appartement de mes parents avec une balle en mousse. Et j'avais 3-4 ans. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué. Ça m'a plu. J'ai commencé vraiment, j'avais 5 ans, 6 ans, au tennis club de Bourg-en-Bresse. Et on est dans les milieux des années 80. C'est pas comme aujourd'hui, quand on voit les clubs de tennis avec les écoles de tennis qui sont vraiment développées, où il y a beaucoup d'enfants dans les écoles de tennis. Bah, moi, la première école de tennis, la première école de compétition, à ce moment-là, on était 4. J'étais le plus jeune, mais moi, ça m'allait très bien parce que je jouais avec des enfants qui étaient un peu plus grands, un peu meilleurs que moi. Et avec mon premier entraîneur, Frédéric Larcher, j'ai commencé à m'entraîner et en même temps, je faisais du foot et à progresser. Et puis, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Et très vite, très rapidement, j'avais un peu ce rêve d'enfant. Quand on a des enfants, ils ont tous des rêves. Il y en a beaucoup qui veulent être Kylian Mbappé. Moi, c'était de vouloir être joueur de tennis professionnel. Et puis, ça a été ce rêve a été renforcé avec la finale de la Coupe Davis en 91 à Lyon. C'était à côté de chez moi et j'y suis allé le vendredi et le dimanche. Et c'était la première fois qu'il y avait une ambiance comme ça pour un match de tennis. Ça faisait 59 ans que la France n'avait pas gagné la Coupe Davis. Et l'ambiance qu'il y avait lors de cette finale dépassait le cadre du tennis. On sentait qu'il y avait quelque chose de plus fort. Et du coup, ce qu'ils ont fait, Yannick Noah avec Guy et Henri, notamment, sans oublier tous les autres qui ont participé à la campagne en 91, ça m'a marqué et ça m'a donné encore plus envie de jouer au tennis.
Tu viens d'une famille de sportifs ?
Pas, mon père jouait un petit peu au tennis. Il aime le sport. Il jouait un peu au tennis. C'est lui qui m'emmenait un petit peu au club. Il jouait de temps en temps. Il jouait au golf aussi. Mais il aime le sport. Il m'a donné un petit peu, cet amour du sport. Il aimait des sportifs charismatiques, qui avaient du caractère. Je pense que ça s'est transmis. Sans qu'il soit, comment dire, un joueur assidu. Cet amour du sport et de certains sportifs a certainement été transmis en moi.
On sait que les parents sont très importants, justement, au début dans le tennis, parce qu'il faut faire le tour des tournois, aller en voiture, sacrifier ses week-ends. Tes parents ont fait tout ça ?
Ouais, ils ont sacrifié une grosse partie de leur vie personnelle. Les week-ends, les vacances. Ma mère en a parlé il n'y a pas si longtemps. J'étais déjà à la retraite avec mon épouse en disant « Ouais, Julien n'a pas eu la même enfance que les autres et moi, je n'ai pas été la même mère que les autres, entre guillemets, avec Julien. Effectivement, je l'ai moins emmené visiter des musées, aller à droite, à gauche, parce qu'à partir d'un certain âge, c'est vrai que les vacances étaient un petit peu conditionnées en fonction du programme, de savoir s'il devait jouer en tournoi, des choses comme ça. Et puis ça a été accéléré quand je suis parti aussi en Pôle France à 11 ans et demi, 12 ans. Et là c'était... Alors le quotidien n'était plus à gérer par mes parents parce que j'étais pris en charge par la fédération. Mais les week-ends où je rentrais, les vacances scolaires, les vacances tout court, etc., c'était forcément conditionné par rapport au tennis.
Et ta relation, par exemple, avec Antoine, du coup, ton frère, est-ce que, justement, il a joué au tennis, lui aussi, comment ça se passait ? Il fallait s'organiser quand même pour tout le monde.
Oui, quand on était petit, en fait, quand Antoine a commencé vraiment un petit peu à jouer, à devoir être accompagné à droite à gauche. Moi, je rentrais à ce moment-là en Pôle France à Poitiers. Donc, entre guillemets, ça a été plus facile. Mais après, effectivement, quand moi, j'étais à l'INSEP, fin de l'INSEP, début du CNE, lui, il est rentré à Poitiers. Ça a été particulier, oui, parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, mes parents, leurs deux enfants, ils étaient plus à la maison. Assez tôt. C'est pas à 18 ans pour faire des études. C'était à 12 ans et à 16 ans. Donc, ça n'a pas été facile à vivre pour eux aussi, pour nous aussi au début. Mais ça a été des choix qu'on assumait, qu'on voulait. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Mais oui, on est conscient que c'est particulier. Mais on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours laissé faire ce qu'on avait envie, ce qu'on voulait vraiment, avec l'école en ligne de mire, c'est-à-dire que c'était la condition sine qua non pour qu'on puisse continuer. Et avec toujours le côté rassurant de se dire, où il nous disait, si ça vous plaît pas, s'il y a quoi que ce soit et que vous voulez rentrer, il n'y a aucun problème. On a toujours été inscrit au collège de Bourg-en-Bresse alors qu'on n'y était pas. On savait que c'était pas leur décision. Et il y en a beaucoup aujourd'hui où c'est ça.
Malheureusement, en effet. Comment vous avez construit votre relation avec Antoine, du coup ? Parce que vous êtes parti très tôt. Toi, tu es parti très tôt. Normalement, on vit avec son frère tout le temps.
Ouais, on avait peu de contacts parce qu'en plus à cette époque, il n'y avait pas les téléphones, les réseaux, l'internet, etc. Donc, on avait peu de contacts directs et réguliers. Quand moi, j'étais à l'INSEP, que lui était à Poitiers. Et forcément, c'était pas une relation de frères traditionnelle qui se revoyait tous les soirs après le collège et qui allaient jouer ensemble. Mais on est toujours resté proches. Je pense qu'à un moment donné, pour Antoine, ça n'a pas été facile d'essayer de se faire son propre chemin. Parce qu'il y avait, malgré tout, une comparaison, alors que beaucoup de gens essayaient de faire attention à ça, mais c'était inévitable. Et je pense qu'à un certain moment, c'était pas évident pour lui. Il n'en a jamais vraiment parlé, formulé, par pudeur, par gentillesse, par plein de choses. Et c'est venu plus tard. Je me souviens de cette discussion que moi j'ai eue parce que il était au début de sa carrière professionnelle entre guillemets et il était un petit peu en difficulté. Et cette discussion-là, voilà, je lui ai dit que c'était qu'il fallait vraiment qu'il se concentre sur lui, sur son chemin à lui, sur sa manière d'être, sa manière de s'entraîner, sur avec qui, comment, et que c'était son histoire à lui qui n'était pas corrélée à la mienne et qu'il fallait, et qu'il y avait aucun souci et qu'il y avait aucun problème par rapport à ça, qu'il l'assume. Mais c'est pas facile à 18, 19 ans de, voilà, d'avoir cette maturité-là, d'avoir, je pense qu'il a pas osé par moment me demander des conseils, plein de choses aussi. Mais notre relation même si on se voyait peu, n'a jamais été, rompue, loin de là. Au contraire, elle a toujours été forte. À tel point que moi, à un moment donné dans ma carrière, j'ai pas hésité à faire appel à lui en tant qu'entraîneur pour me soutenir et m'apporter ce dont j'avais besoin à un certain moment.
Il a une petite question pour toi, Antoine.
Ouais, mon Jules. Bon, comme tu le sais, on jouait à la console de jeu à tous les sports possibles et imaginables, foot, tennis, hockey, tout ça. Et je voulais savoir si depuis le temps, tu t'étais remis de tes défaites contre ton petit frère. Voilà. Est-ce que tu t'es remis du fait que je te dominais aux jeux vidéo. Voilà, j'ai hâte de connaître ta réponse. Je t'embrasse.
Comme quoi, les souvenirs fluctuent en fonction de quel côté on se place. C'est vrai qu'on jouait un peu aux jeux vidéo, effectivement, et on jouait surtout aussi au foot tous les deux. On avait la chance d'avoir une maison après où il y avait un jardin et mes parents avaient déménagé exprès pour qu'on puisse jouer dehors, etc. Et on jouait beaucoup au foot. Et lui, quand il a commencé le foot, il était gardien. Et je pense qu'en fait, il est devenu gardien, entre guillemets, à grâce ou à cause, du fait qu'on jouait ensemble. Et parce que moi, je jouais et en fait, je le mettais dans les buts, je lui tirais des buts. Et parfois, c'était assez violent parce qu'il y en avait quand même 4 ans et demi d'écart. Et que quand j'avais 10 ans, il en avait 5 et demi ou 6. Et il n'était pas encore très, très grand. Et j'y allais. Et on passait des heures. De temps en temps, ça finissait un peu en pugilat. Mais voilà, c'est les souvenirs fraternels.
Et donc, tu gagnais aux jeux vidéo.
Je ne sais plus. Franchement, je vais lui laisser le bénéfice du doute.
C'est trop sympa. Ouais. Comment ça se passe après, quand tu pars au pôle, après au CNE, etc. Est-ce que tu sais que tu vas devenir joueur professionnel?
Je l'espère. Je l'espère fortement. C'est pour ça que j'y vais. Je me souviens la manière dont j'ai décidé d'y aller. Et pourtant, j'étais petit. J'étais en sixième. J'avais fini ma sixième à Bourg-en-Bresse. Et à cette époque-là, Les joueurs de mon âge qui habitaient dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, commençaient à avoir des horaires aménagés dans certains établissements scolaires. Et moi, j'étais loin de tout ça parce que je me souviens que l'emploi du temps que j'avais en sixième, le vendredi, je finissais de 14h à 16h par l'EPS. Et j'étais entraîné par la fédération, j'avais une bourse, je faisais encore du foot, donc du sport, j'en faisais. Et on avait demandé, avec une lettre de la fédération, une dérogation au collège pour que je finisse à midi le vendredi pour pouvoir partir en tournoi ou aller m'entraîner et pas faire les 2 heures de PS. Et ça m'avait été refusé. ça m'avait été refusé. Et quand, fin juin, je reçois la lettre qui me dit qu'à la rentrée prochaine de septembre, je suis pris au Pôle France de Poitiers pour rentrer la cinquième là-bas, j'ai mis longtemps à me décider parce que j'habitais à 450 km de là, c'était pas facile. Donc là, mes parents m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Et je me suis décidé le 15 août et je me souviens de m'être dit plusieurs choses. C'est on te le propose et peut-être qu'on te le reproposera pas. Et toi, par rapport aux autres, soit ils vont être en pôle, soit ils vont être en horaire aménagé. Toi, tu n'auras rien. Donc, vas-y, tente-le. Et donc, c'est comme ça que je suis parti. Et avec, après, une fois que j'étais... et je l'avais déjà au fond de moi, mais ouais, cette volonté de vouloir jouer au tennis.
C'est pas facile d'être aussi jeune et de se retrouver dans sa petite chambre au pôle, non?
Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Les 15 premiers jours, j'ai pleuré tous les soirs. Et puis après...
T'as jamais dit on arrête?
À la fin du premier trimestre, c'était dur. J'étais le plus petit, j'étais l'un des plus jeunes et j'étais le plus petit. Un petit peu bizuté, un petit peu... Je me souviens quand j'avais mes parents au téléphone le soir et eux, ils me disaient « Essaye, et puis à Noël, si ça ne te plaît pas, tu restes à la maison. » Et quand Noël est arrivé, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais « Non, je continue. » Et puis en fait, à la fin de la première année scolaire, j'étais pas le plus heureux, on va dire, je pense, mais ça allait. Et en fait, après les deux dernières années que j'ai fait, je me suis régalé.
Est-ce qu'il y a eu un déclic?
Je me suis habitué, je pense, à la vie.
Tu t'es fait des copains, ouais. Peut-être aussi un peu quand même.
Ouais. Non, et puis, on avait un équilibre aussi, c'est qu'on allait au collège là-bas, le matin. Et donc, moi, j'avais des copains dans ma classe qui n'étaient pas sportifs. Et cet équilibre-là, il était hyper important. Et l'année d'après, en quatrième, nos entraîneurs, il y avait un voyage de classe qui était organisé en Espagne, aux vacances de Pâques, je crois. Et nos entraîneurs ont dit, vous y allez, c'est vachement bien. Vous allez être avec vos copains de classe. Et on était partis. Et je me souviens, j'étais avec Nico Mahut déjà, avec des basketteurs et tout. Du coup, on s'est fait des copains et des copines là-bas.
En dehors.
Exactement. Et cet équilibre, quand on partait le matin au collège, on était super contents, quoi. Et après, l'après-midi, on allait s'entraîner. On faisait ce qu'on aimait. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. Les deux dernières années à Poitiers, après j'ai fait 4 ans à l'INSEP, je me suis retrouvé et c'était l'an 2000. J'ai pas vu les années passer, vraiment. C'est passé une vitesse, mais j'ai pas vu le temps passer.
À quel moment tu deviens professionnel?
Nous, on devient professionnel quand on commence à... Le circuit junior nous apprend et nous prépare au circuit ATP. Et dans les dernières années junior, quand on commence à mixer les gros tournois juniors, les premiers tournois ATP futurs, etc., on commence à rentrer dans le monde professionnel. Et après, une fois j'ai fini moi l'INSEP, puis je suis passé au CNE à Roland-Garros. Oui, mais en fait, on est préparé à ça. Et parce que dans nos étapes de formation, à cette époque-là, on était structuré et préparé. Il y avait un vrai cheminement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on retrouve très rapidement à la fédération.
Ouais, tout le monde ne le dit pas, en effet, que tout était prêt. Là, toi, tu le dis, mais il y en a peu qui le disent aujourd'hui, en effet. Que justement, le passage de la jeunesse au monde professionnel est un énorme gap. Et il y en a beaucoup qui se perdent là-dedans.
Non, mais c'est un énorme gap. On s'est perdu. On entend souvent dire « Ah, les Français, on est très bons chez les juniors et après, pour passer le cap, on n'est pas bons. » Mais en fait, ce n'est pas vrai. Enfin, pour certains, c'est vrai, mais pour d'autres, ce n'est pas vrai. J'en ai plein des exemples. Gaël, mon fils, il a gagné 3 ou 4 grands chelems chez les juniors.
Mais c'était il y a longtemps maintenant, non?
Ouais, mais Arthur fils, Lucas Van Aché, c'était là, les deux. Ça allait très vite pour eux. Ils sont 40e et 60e mondiaux dès leur première année ou leur deuxième année. Ça allait très vite. Donc, mais quand je dis qu'on était préparé, c'est en fait, on était structuré. on était structuré par le système. On avait de 12 à 15 ans, on était soit à Poitiers, soit à Reims, soit à Boulouris à l'époque. C'était ça les trois pôles France. Ensuite, si on était bon, on pouvait soit rester à Boulouris, soit aller à l'INSEP. Et puis après, une fois que les juniors étaient terminés, on rentrait au Centre National d'Entraînement dans les groupes espoirs. Et puis ensuite, après, bah, soit on était encore entraîné par la fédération, on partait dans le privé, etc. Mais c'était les étapes, elles étaient jalonnées. Et ça n'empêchait pas que d'autres puissent y arriver par leurs propres moyens en prenant un autre chemin. Et c'est tant mieux. Il n'y a pas une seule vérité. Mais en tant que fédération, quand on a la mission de former, c'est ça le rôle de la fédération, il faut que les étapes qu'on propose, elles soient à la fois performantes. Donc, ça veut dire que les gens qui sont responsables, les éducateurs qui sont responsables de ces centres, aient des résultats, à la fois éducatif et tennistique, et que ce système soit bien balisé. Et si on a été copié dans le monde entier, c'est parce qu'on était bon. On était bon là-dessus. On gagnait tout le temps des titres chez les juniors, chez les garçons, chez les filles.
C'est vrai.
On était bon. Et c'est pas parce qu'on n'a pas gagné de grand chelem chez les hommes seniors qu'on a failli.
Ouais, mais pourtant, on a la sensation que le système a dû changer parce qu'on a eu la sensation d'avoir failli.
Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on forme pas un vainqueur de grand chelem. On forme des joueurs et des joueuses pour les amener à aller le plus haut possible. Et après, à ce moment-là, c'est à eux de prendre leur destin en main. On l'a l'exemple parfait. C'est Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, elle a été formée à la fédération. Elle a fait un pôle France, je crois que c'était Blois à l'époque, ou peut-être dans sa ligue d'origine. Je voudrais pas dire
l'Oise,
de bêtises. Ouais. Après, elle est allée. Après, elle est allée à l'INSEP. Après, elle est allée au CNE. Et après, quand elle s'est dit, OK, il faut que je prenne mon truc, elle est partie dans le privé. Elle a eu un entraîneur sud-africain dans un premier temps. Ensuite, elle a pris Alexia Dechaume. Et ensuite, elle a pris Loïc Courtois. Et elle s'est structurée pour retrouver les personnes qui allaient lui permettre de réaliser ses rêves et ses objectifs. Voilà. Et on en a plein. Et c'est pas parce que Joe Tsonga, Gaël, Richard, Gilles, qui ont tous été formés, alors Richard un peu moins, mais ils sont tous passés par les pôles, par l'INSEP, par le CNE. C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné un grand chelem en simple que notre système n'a pas été bon. Et au contraire, ils ont été super forts grâce à ça. Et après, ils ont essayé. Déjà, ils sont tombés sur une génération de dingue, oui. Premièrement. Puis après, ils ont essayé de trouver, de s'entourer de telle ou telle personne pour aller le plus haut possible. Est-ce qu'avec un autre système, ils seraient allés plus haut, ils auraient gagné un grand chelem? Peut-être. On le sait pas. En tout cas, avec ce système-là, ils ont tous été dans les 10 premiers mondiaux.
Et toi, tu voulais faire quoi? C'était quoi ton objectif?
Moi, quand j'étais petit, je voulais être numéro un mondial. Tu sais, ça a de la gueule quand t'es petit.
Oui. Même pas gagner un tournoi, enfin, genre un rêve de grand chelem ou quelque chose comme ça.
Non, numéro un mondial.
Ah oui, carrément.
Après, c'était. Quand j'étais tout petit, c'était, ouais, je voulais gagner, être numéro un mondial. Et puis, après, je te dis, le 91, ça m'a marqué. Après, c'était la Coupe Davis.
Objectif Coupe Davis.
Et je me souviens quand c'était dur. Parce que c'est dur, c'est difficile. Et c'est pas de. Comment dire?
Mais on a le droit de dire que c'est dur. Hein.
Non, mais non seulement il faut le dire. Enfin, on a le droit de le dire, mais en fait, il faut qu'ils le sachent, les jeunes et les parents. Et je dis pas ça par vantardise, parce que, entre guillemets, j'ai réussi une carrière. C'est parce que si on n'est pas honnête, ils se rendent pas compte de ce que ça va demander. Et qu'aujourd'hui, se lancer dans un sport individuel, itinérant, où du 1er janvier au 15 novembre, on n'est pas chez soi, on va perdre chaque semaine. On va perdre chaque semaine. Plus ou moins. Bah ouais, c'est dur. Mais si on aime ça, c'est pas grave. Oui, de temps en temps, notre bien-être mental, il en prend un coup. Mais pour être sportif de haut niveau et dans un milieu aussi concurrentiel que le tennis, il faut accepter que ce soit difficile. Et il y a et je me souviens, nous, on avait des entraîneurs et des éducateurs qui nous apprenaient à ce que ce soit difficile et à aimer la difficulté. Pendant les entraînements, pendant des séances d'entraînement, sur des séances hors du terrain, où on faisait des choses qui n'avaient peut-être aucune corrélation aujourd'hui quand on voit les data, les préparations physiques hyper scientifiques, etc., mais où on développait d'autres choses. La résistance au mal, dans la difficulté, comment on réagissait physiquement, mentalement. Et je me souviens, moi, plein de fois, quand il y avait des séances qui étaient difficiles ou quand allez, tiens, vas-y, compte, fais l'effort. Et il y avait, c'est peut-être ça qui va t'amener en coup des vis un jour. C'est peut-être ça qui va t'amener à, après, ça se matérialise un petit peu, à jouer sur le central de Roland Garros, à faire ci, à faire ça. Et quand on a des, c'est plus des rêves, mais, enfin, c'est des rêves, mais qui se transforment un petit peu, mais qui sont chevillés au corps et qu'on garde en tête quand c'est difficile, ça nous aide à nous dépasser et petit à petit à franchir les étapes qui nous amènent au plus haut niveau.
Quand on est sur le circuit, on démarre sur le circuit, on a les premiers gains. Parce qu'il y a bien sûr cette notion de l'argent aussi dans le tennis. Est-ce que tu te souviens ce que tu as fait de tes premiers gains?
Pas grand-chose, les premiers gains. J'étais content de gagner de l'argent, mais j'ai eu la chance de, pareil, avec mes parents, ma maman gérait ça au début et tout, et je m'en occupais pas trop. Et moi, j'ai toujours fonctionné, c'était de travailler, d'essayer de progresser, de travailler pour progresser, parce que si je progressais, j'allais gagner des matchs, j'allais gagner des points ATP, j'allais monter au classement et j'allais gagner de l'argent. En fait, c'était ça mon cheminement de pensée. Trois fois dans ma carrière, j'ai dû regarder la différence de prize money entre, tiens, là je suis en quart d'un Masters 1000, tiens, si je gagne, combien il y a en demi? Mais tu vois la différence. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais les générations ont changé. C'est pas un reproche, c'est normal. Il y a beaucoup plus d'argent en Grand Chelem notamment, et c'est tant mieux parce que ça permet aux joueurs de pouvoir se structurer, de pouvoir être libres là-dessus sur leur saison, parce que ça coûte cher, etc. Donc, mais je sais que ils savent un peu, ils sont au courant des gains. Mais moi, ouais, dans l'ensemble de ma carrière, les 18 ans que j'ai fait sur le circuit ATP, je te dis, j'ai dû regarder trois fois la différence de savoir. Je me disais, ok, de toute façon, si tu gagnes des matchs, tu gagneras de l'argent. C'était ça un peu mon truc.
Sans objectif. Je vais m'acheter, comme Paul Henry, je vais m'acheter une Porsche.
Alors si, je l'ai eu ça. Alors ça, je l'ai eu en 2006. Parce que, avec mon équipementier de l'époque, j'avais un gros bonus de fin d'année si je terminais 50e mondial. Et je me suis mis à regarder ça après l'US Open. Donc on est début septembre, il reste deux mois et demi de saison. Et je devais être 50, un truc comme ça. Et donc, j'avais regardé mon contrat, je fais OK, d'accord. Si je fais ce bonus-là, je l'utiliserai pour m'acheter cette voiture. Et j'arrive à Bercy au dernier tournoi. Il faut que je gagne deux matchs. Et à l'époque, j'étais au Team Lagardère. J'étais entraîné par Olivier Malcor et Olivier Soulès. Et je leur avais dit ça. Et quand j'avais battu Fabrice Santoro et je joue Gonzalez, Fernando Gonzalez, qui jouait le Masters, lui. Qui jouait sa qualification Masters. Et quand je gagne, je vois Olivier Soulès dans la tribune des joueurs qui me fait le signe de la voiture parce qu'il savait. Et donc, du coup, effectivement, 15 jours après, j'avais commandé et j'ai eu 3-4 mois après.
Et tu l'as gardé?
Non, je l'ai revendu parce que, voilà, au bout d'un moment.
Oui. Hein. Ça a son temps.
Ouais, exactement.
On a besoin d'une plus grande voiture.
Voilà. La vie évolue.
Pour mettre plus de monde dedans. Est-ce que t'aimes bien la vie de voyage et la ouais. vie nomade que réclame le tennis? Parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé ça, être tout le temps dans les avions.
Ouais.
Toi, tu l'as plutôt bien vécu. Mais on dirait que ouais, t'as bien, tout est bien passé finalement.
Ouais, non, moi, c'était. Moi, les voyages, le. Comment dire la vie sur le circuit, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Il y avait des moments, c'était. Il y a des tournois qui sont moins bien que d'autres. Il y a des périodes où c'est moins bien parce que tu joues moins bien, parce que c'est dur, etc. De temps en temps, la sécurité aux aéroports, quand tu la fais trois fois par semaine, elle te casse les pieds. Là, ouais, je me disais pendant ma carrière, je pense que c'est ça qui me fera arrêter ma carrière, c'est cette sécurité. Tu fais la queue tout le temps, un truc, puisqu'on était. Mais autrement, non, c'était c'était pas un, comment dire, un fardeau, ouais. Une contrainte de faire ma valise, de repartir, partir le 25 décembre au matin, de louper Noël de temps en temps, de louper mon anniversaire de temps en temps, de louper plein de choses. Ça a été plus difficile sur la pas la fin, mais quand j'ai rencontré celle qui est devenue la femme qui est devenue mon épouse, et puis après quand j'ai eu mon fils, parce que en fait ce qui est le plus dur, c'est les longues tournées. Et au tennis, il y en a 3 ou 4 dans l'année qui sont, on peut rien faire. Il y a 5 semaines de voyage. 5 semaines, c'est long. 5 semaines, c'est long. Quand on a une vie, entre guillemets, stable et normale à côté, ou moi, dans le sens où j'ai une femme qui travaille, qui a une vraie vie et qui est conscient des problèmes du quotidien. Et oui, il y a un décalage qui se crée quand tu pars 5 semaines de suite et que toi, t'es dans un hôtel, restaurant, que t'es focus. Là, oui, il y a un décalage qui se crée. Et après, quand il y a un nouveau-né qui vient, et ces 3-4 longues tournées sont compliquées. Mais autrement, non. Moi, la vie de... Les voyages, la vie de circuit, j'ai toujours aimé.
T'as jamais fait une de ces longues périodes avec ton fils et ta femme, d'ailleurs?
À la dernière année, ma femme avait fait la surprise à notre mariage de m'annoncer que les 6 premiers, elle savait que c'était ma dernière année en 2018, et moi je savais que c'était ma dernière année, d'avoir négocié avec ses patrons un congé de 6 mois sans solde, et du coup on a pu voyager ensemble. Donc on a fait le mois en Australie tous les trois, on a fait la tournée des États-Unis au mois de mars, ils sont venus à Madrid, ils sont venus jusqu'à Roland-Garros inclus, où on a pu voyager ensemble, et c'était des périodes, ouais, c'est magnifique, quoi.
Ton fils, il en a des souvenirs de ça?
Non, pas trop. Petit, on lui montre des photos. Ouais, il était petit. Il est très fier parce qu'à Madrid, donc c'est Madrid 2018, donc il a pas encore 3 ans. Il a une photo où il est dans les bras de Rafa Nadal, et il en est très fier. Et il me pose souvent des questions sur ça, sur cette photo, puis il le dit un peu à ses copains et tout. Et ouais, il en a pas trop de souvenirs, malheureusement. Mais nous, on les a et on lui raconte. Non, on a vécu des moments fantastiques et c'était chouette.
Ça lui a plu à ton épouse aussi, parce qu'on, ouais, parle toujours des enfants. Elle aussi, peut-être qu'elle aurait pu en avoir marre de faire la queue à la sécurité.
Non, parce qu'on est parti dans les super conditions où on pouvait profiter. Surtout sur cette tournée, comment dire, australienne, où on est allé d'abord en Nouvelle-Calédonie à Nouméa pour jouer le Challenger, et puis après, et ma femme, elle adore voyager aussi, et on était dans des super conditions, et on a pu à la fois profiter tous les deux, profiter avec notre fils et tout, donc c'était, c'est une super période.
T'as joué beaucoup en simple et beaucoup en double. On a le sentiment aussi que c'est quelque chose de très naturel pour toi de jouer sur les deux tableaux.
En fait, moi, j'ai été, encore une fois, éduqué comme ça. À l'INSEP, sur les circuits juniors, etc., on jouait le double. On ne se posait même pas la question, quoi. On faisait simple et double. Et pour beaucoup de raisons. Déjà, c'était pour nous faire passer du temps sur le terrain. Ça nous évitait, entre guillemets, d'aller nous réentraîner. Pour faire progresser notre jeu en simple, grâce au double. Que quand on regardait ce qu'il se faisait au plus haut niveau... chez certains Français comme Guy Forget, comme Fabrice Santoro, Mickaël Audra après, etc., on voyait que c'était compatible et que déjà grâce au double, il pouvait gagner de très grands tournois et qu'il progressait en simple aussi grâce au double. Donc effectivement, ça a été assez naturel pour moi de faire les deux.
Ça te plaisait en plus de ne plus être tout seul?
Oui, ça me plaisait. Et puis je le disais... on perd chaque semaine. Et quand j'avais 19, 20, 21 ans, j'ai mis du temps à percer. Je butais en simple. J'étais 200, 250e. J'étais capable de battre des mecs dans le top 100, etc. Mais j'étais pas constant. J'arrivais pas à m'imposer en challenger, à passer ce cap, etc. Donc, il y avait forcément de la déception, de la frustration qui s'installait. Mais quand on perd au deuxième tour d'un challenger, mais qu'on reste jusqu'à la fin de la semaine parce qu'on a gagné le double, bah déjà dans la tête, pour repartir sur la semaine d'après, c'est pas pareil. Et je me souviens, et c'était pas mon entraîneur, une année, on est au Challenger de Cherbourg, je suis avec Nico Mahut, on joue le double. Et on joue en finale contre Mika Lodra. Et je crois qu'il joue avec Julien Bouter. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et Mika, il était entraîné par Thierry Tulan. Et donc, il nous ramène tous les trois le dimanche soir, après la finale du double. Il nous ramène tous les trois à Paris. Et le lendemain, on rentrait au CNE dormir à l'internat. Et le lendemain, on repartait avec notre entraîneur sur un autre challenger. Et dans la voiture, il nous disait, les gars, il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui arrivent le samedi en tournoi et qui repartent le mardi. Et il y a ceux qui arrivent le dimanche et qui repartent le dimanche d'après. Et en fait, mine de rien, grâce au double, on s'entraînait, on jouait des matchs, à haut niveau, avec de la pression. Et forcément, à un moment donné, tu développes des qualités pour ton simple et puis ça t'aide à garder le moral quand ça va moins bien en simple aussi. Et pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé.
T'as été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Mmh. Qu'est-ce que c'est chic.
Ouais.
2012, bravo. C'est vraiment trop beau. À Londres, c'était avec Richard Gasquet. T'as gagné Roland-Garros, ça aussi, c'est très chic. Mmh. Avec Édouard Roger-Vasselin en 2017.
2014.
En 2014, pardon. Tu te dis, comment tu vis ces moments-là?
C'est des moments qui sont magiques. Parce que quand t'aimes le sport comme moi, avoir une médaille olympique, c'est quelque chose qui reste à jamais. C'est peut-être deux des matchs où j'ai eu le plus peur avant le match. J'en parlais avec des amis vendredi dernier. Et c'est marrant. Je parlais de ça et je disais, je pense que c'est peut-être les deux matchs où j'ai ressenti le plus la pression. Et alors, ils me disaient, mais pourquoi? Je disais, parce que ces matchs-là, pour moi, il y avait un... C'est soit tu le gagnes et il y a quelque chose qui se passe de très fort, soit tu le perds et c'est très dur à jamais, quoi. Encore plus pour les jeux. Grâce au double, j'ai vécu des émotions qui sont dures à décrire et qui ont été très, très, très fortes.
Toi qui aimes le sport, être aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de très particulier, non?
Ouais, c'était géant. Je me souviens de la cérémonie d'ouverture. C'était dingue d'arriver derrière la porte-drapeau. On tous chantait la Marseillaise en rentrant sur le stade olympique de Londres, de défiler. Puis après, on était à Wimbledon, on était un peu à part. Et puis, tour après tour, avec Richard, on se prend au jeu et puis on est en quart de finale. On se dit, allez. Puis on gagne ce quart et on se dit, on a deux chances. Et c'est magique d'avoir vécu ce podium avec Joe et Mika. Là, c'était vraiment les images qu'on voyait à la télé, quoi. T'es sur un podium olympique, comme souvent, il y a le drapeau américain. Puis t'as deux drapeaux français, puis t'as l'hymne américain qui retentit, et puis il y a quelqu'un, tu fais le geste que t'as vu tout le temps à la télé. Tu baisses la tête pour qu'on te mette une médaille autour du cou. Au tennis, ça n'existe pas. On te met une coupe, un trait. Et là, t'es sur un podium, et c'est toi où tu baisses la tête pour qu'on te mette une médaille autour du cou. Et ça, tu le regardes tous les deux ans, entre les Jeux d'hiver et les Jeux d'été, tu le regardes à la télé, c'est toi qui l'as. Donc c'est quelque chose de particulier.
Elle est où la médaille aujourd'hui?
C'est un des rares trucs à la maison et elle n'est pas en exposition, mais elle est dans notre appartement et c'est quelque chose, pareil, c'est un objet qui aussi marque les gens quand ils la voient ou qu'ils la prennent dans la main et disent c'est pas pareil, il y a quelque chose qui se passe.
Est-ce que tu as des regrets sur ta carrière?
Bercy 2017. C'est peut-être mon plus beau moment dans ma carrière personnelle. Et en fait, je suis en demi-finale et je joue Jack Sock pour jouer Krajinovic en finale. Donc quand tu te dis ça, tu te dis... On a discuté avec Antoine aux Étoiles du Sport il y a 10 jours. Alors j'étais cuit, j'avais 36 ans, j'avais fait un parcours incroyable, etc. Mais la manière dont je jouais... Mais en même temps, c'est mon plus beau souvenir aussi. De ma carrière de simple. Après mes 10 finales.
Les 10 finales en simple.
Ouais. Oui, celle à Kuala Lumpur où j'ai une balle de match, j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais quand on parle d'émotion, quand on parle de... Ce que j'ai vécu à Bercy, c'est 100 fois plus fort que si j'avais gagné Kuala Lumpur. Et rien non plus comparé à ce que j'ai pu vivre en Coupe Davis, à Roland-Garros en double, aux Jeux Olympiques. Donc là-dessus, j'ai pas de regret particulier. Je t'ai dit Bercy 2017, après coup, mais c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, parce que j'ai tout donné sur le moment, évidemment. Mais d'avoir
été si près, finalement.
En fait, peut-être d'essayer de me donner la capacité d'aller chercher encore plus loin à ce moment-là. Je ne sais pas si je l'avais, si j'avais toutes les armes pour, etc. Mais peut-être d'avoir... Parce qu'il fallait que j'aille puiser très loin, parce que j'étais vraiment cuit, physiquement, moralement. Mais à ce moment-là, il doit y avoir... J'aurais dû être encore capable d'aller chercher encore plus loin.
Heureusement, il y a eu la Coupe Davis en 2017.
Ouais.
Le rêve de ce jeune Julien Beneteau est enfin réalisé avec cette victoire face à la Belgique. Mm-hmm. C'était à Lille, dans un stade de foot. Quand même, vous avez réussi à gagner la Coupe Davis. Là, tu te dis, bon, voilà, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, même si tu n'as pas été numéro un mondial.
Je sais même pas si je me dis ça, mais... Il y a eu beaucoup d'émotions dans cette finale, dans cette préparation de finale, dans toute chose. Donc c'était plein de choses qui sont ressorties et c'est plus tard quand j'avais le petit saladier. Ouais. Chez moi, je dis OK.
Pourquoi il y avait beaucoup d'émotions autour de cette finale?
Parce qu'au départ, je devais pas faire partie de l'équipe. Et que grâce à mon, comment dire, grâce à mon parcours à Bercy, Yannick m'appelle dans le groupe pour préparer la finale. Et qu'à un moment donné, je sais très bien que c'est Nico et Pierre-Hugues, l'équipe de double des titulaires, mais que je joue très bien à l'entraînement, que je suis pas loin d'intégrer le groupe, que je pense qu'à un moment donné, peut-être que je vais intégrer vraiment les 5 de la finale. Et que je vais jouer peut-être avec un tel et que finalement Yannick fait un autre choix, etc. Donc c'était un vrai roller coaster, ouais, cette préparation.
Émotionnel, ouais. En tout cas. Après la finale, ça s'est plutôt bien passé.
Après la finale, c'est bien passé. À partir du moment où on a gagné le double, on menait 2-1, même si Goffin était très fort, on savait quand même qu'à 2-2, Lucas était fort.
Et le saladier, il est où? Avec la médaille olympique?
Non, le saladier, je ne sais même pas où il est. C'est dur,
c'est
ça.
Ah bon, voilà.
Voilà.
Il y en a certains, des handballeurs qui ont retrouvé leur médaille olympique.
Ouais, mais eux, ils en gagnent trop aussi, c'est pour ça.
Ils ne savent plus où mettre.
Ils ne savent plus où mettre.
Et gagner la Fed Cup en tant qu'entraîneur en Australie aussi, grosse émotion.
Ouais.
Là, pour le coup, vous n'arrivez pas en favori. Toi, tu es dans un rôle totalement différent, mais ça a été tellement fort aussi. De réussir à tenir le groupe vers cet objectif sur toute cette période-là.
Ouais, c'est un des moments forts de ma vie et de ma carrière sportive, on va dire. C'est aussi fort que ce que j'ai pu accomplir en tant que joueur. C'est des moments, pareil, qui sont différents, que j'apprécie peut-être encore plus à sa juste valeur parce que je suis de l'autre côté, que je travaille avec un staff, qu'il y a des gens autour de moi qui m'aident, qui m'épaulent, pour essayer de transmettre ça aux joueuses et de leur faire comprendre que si elles arrivent à atteindre cette victoire finale, elles vont connaître des choses qui seront plus fortes que tout et que ça doit dépasser les différents personnels les quiproquos qui pouvaient y avoir ou les distensions qui pouvaient y avoir entre elles et qu'il y avait quelque chose de plus fort derrière tout ça et aussi sur l'aspect sportif d'avoir été capable de les mettre dans certaines conditions qui l'ont permis de gagner des matchs hyper importants que ce soit en demi-finale ou en finale. C'est quelque chose qui marque c'est vraiment des souvenirs et c'est ce après quoi je cours avec elle encore. Je leur dis voilà, enfin on a beaucoup d'ambition pour elle et j'ai envie de leur refaire qu'on revive ça au moins une fois.
Tu t'es énormément investi dans ce groupe Justement, pour un peu apaiser les tensions, les désaccords qu'il pouvait y avoir, on sent que c'est un rôle qui te plaît énormément, justement, de créer un groupe, de faire du sport collectif, quoi, manager une équipe, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi ou que tu as fait une formation, tu t'inspires de quelqu'un?
Alors, je n'ai pas fait de formation innée, je ne sais pas. Je pense que mon amour pour les sports m'a aidé. Que ce soit le rugby, que ce soit un peu le handball aussi, que ce soit, j'ai lu beaucoup des interviews d'anciens de managers actuels ou des managers qui étaient en poste en 2017, 2018, 2019, de sélectionneurs, des choses comme ça, de certains modèles qui marchent.
Comme
la Nouvelle-Zélande au rugby, comme le Stade Toulousain au rugby. Qui marche dans le temps, je parle. Ils peuvent perdre.
Qui dure.
Je pense que Fabien Galthié sera dans le même pour moi. C'est pas parce qu'on a perdu d'un point là en quart de finale. Je pense que le mondial en Australie en 2027, on va de nouveau être parmi les prétendants et en fonction de. Mais en tout cas, entre temps, ça gagne. Et il y a une trame, il y a quelque chose. Et ne pas remettre tout en question parce qu'il y a un. Et ça, parce qu'il y a un résultat, entre guillemets, qui est pas celui espéré. Pour moi, en 2007, quand on bat la Nouvelle-Zélande, je me souviens, en quart de finale à la Coupe du Monde, je me souviens la réaction de Graham Henry, le sélectionneur de l'époque. Il est dans sa loge, là, à Cardiff, derrière la vitre. Il regarde ses adjoints, il leur serre tous la main. Et pour eux, c'est un cataclysme. C'est rien comparé à ce que nous, on a vécu là. Parce que c'était les énormes favoris, le Nouvelle-Zélande, le rugby là-bas. Ben derrière, ils n'ont pas paniqué. Ils l'ont reconduit dans ses fonctions. Et il est champion du monde en 2011. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé son adjoint. Et il est champion du monde en 2015, son adjoint. Et en fait, cette continuité-là, en 2007, je pense qu'il y a 90% des organisations sportives au monde, que ce soit des sélections, des fédérations ou des clubs, qui auraient tout envoyé valdinguer. Et après, c'est quels sont les messages qu'ils transmettent. J'essaye de m'imprégner de ça. Je peux pas le distiller autant que je pourrais, autant que je voudrais. Parce que le tennis, c'est individuel. Mmh. On se réunit pas si souvent. Mais oui, manager une équipe, travailler avec un staff, manager des équipes, écouter, voir ce qui se fait. J'ai adoré le discours d'Hugo Mola en finale, avant la finale du top 14 cette année. Pour moi, c'est des choses qui. Et que je pioche, que je note, que je garde et que j'essaie de sortir au bon moment. J'aimerais. Ouais, manager, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
T'aimerais pas justement manager au quotidien juste une personne et voir un peu justement ce que donnerait le travail sur le long terme? Dans la continuité.
Une personne au tennis, je ne veux pas parce que pour être bon, il faut s'investir et le tennis demande énormément de voyages. Donc, je ne veux pas ça. Mais oui, pourquoi pas? Dans un autre domaine, dans un autre sport, une équipe, quand je dis une équipe, ça peut être... des athlètes ou un staff ou des gens qui sont opérationnels dans une organisation. Oui, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et là, en ce moment, de manière personnelle, je suis 2-3 formations en ligne, des choses comme ça, pour essayer de m'enrichir encore plus.
T'adores le sport, Julien.
Oui.
Ouais, vraiment beaucoup.
Je crois peux pas le nier.
Tu peux pas le nier. Tu regardes beaucoup de sport. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Le rugby, on a bien compris. Le handball, un peu aussi.
Ouais,
le foot, puisque tu as joué au foot quand même.
Ouais.
Le golf.
Oui, énormément.
La Ryder Cup.
Ouais. Pour moi, c'est... Ouais, voilà, c'est la
compétition que tu préfères?
Ouais, je pense.
Plus qu'une finale de Coupe du Monde de rugby?
Ça dépend. Je peux pas choisir. Je mets le double écran.
Ah, c'est vrai?
Ouais, je peux pas choisir.
Est-ce que ta femme aime le sport aussi?
Ouais, non, beaucoup moins que moi. Enfin, c'est compliqué. On a plusieurs écrans à la maison.
J'espère pour elle. Est-ce que tu as des idoles, en tout cas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sportifs qui t'impressionnent dans ce qu'ils réalisent?
Woods m'a impressionné et j'espère qu'il va m'impressionner encore. Je,
Ça va être dur, non?
Sa victoire en 2019. Ouais, c'est comme Federer, c'est comme Nadal. Attention, si son corps, il est, ils sont pas pareils que nous. Ils sont différents. Pourquoi, comment, je sais pas. Mais il y a, non, il y en a plein. Bolt m'a sidéré. J'aime Schifrin m'impressionne.
Au ski.
Ouais, Schifrin m'impressionne. Comme Hirscher m'a impressionné. M'impressionne par leur longévité, leur
capacité à gagner tout le temps.
Et à répondre présent tout le temps. Ou à rebondir. Schifrin, comment elle a rebondi après les Jeux Olympiques, etc. Et ouais, il y a certaines personnes qui te donnent envie de regarder. René O'Sullivan, il me donne envie de regarder du snooker.
Non, mais. Évidemment, plus grand champion de snooker de l'histoire.
Mais puis il a souvent des personnages qui sont aussi à part. Donc, Jordan. C'est lui, pour moi, c'est l'ultime. Ils me font rire tous avec leurs débats, avec James et compagnie. C'est, il n'y a même pas de comparaison possible. Federer, Nadal, Djokovic, c'est hallucinant. Ils forcent l'admiration. Et les matchs qu'ils sont capables de faire, leurs duels, là où ils ont amené le sport, leur capacité, leur longévité, leur capacité à gagner tout le temps, pareil. C'est donc oui, il y en a beaucoup qui m'inspirent ou qui me donnent envie de suivre le sport ou qui m'ont donné envie de regarder beaucoup de sport.
Tu vas faire quoi pendant les Jeux Olympiques alors ?
Bah déjà pendant la première semaine, je vais m'occuper que des joueuses. Et ensuite, je pense que je vais aller sur quelques événements au tout début de la deuxième semaine. Et après, je pense que je vais le suivre à la télé.
Quels événements t'as envie de voir ?
J'aurais bien aimé voir la natation, mais c'est la première semaine. Donc, j'ai pris deux places un soir où ça sera ma femme et mon fils qui iront. Je vais aller faire une soirée d'athlétisme avec mon fiston. Parce que l'athlétisme aux Jeux Olympiques, c'est quand même exceptionnel. Et après, on va peut-être. Après, c'est en stand-by. J'ai pris des places et je verrai ce qu'on en fait. J'ai un quart de finale de basket.
Ah !
Alors, j'espère que ce soit là qui est la France ou les
chez
USA.
Chez les garçons ou chez les filles ?
Chez les garçons. Ou les USA.
Oui, t'as quand même beaucoup de très belles équipes à suivre.
Ouais.
C'est un très beau tournoi olympique, celui-là.
Ouais. Donc, oui, j'espère que, on a une équipe exceptionnelle. Donc, voilà. Et puis après, je pense qu'il sera temps de quitter Paris.
Oui, apparemment. C'est le conseil qu'on nous donne régulièrement. Ouais. Nous, on achète des vélos, clairement, pour cette période-là. Un mot sur ton fils, qui est né en 2015 et qui aime le sport aussi.
Ouais, beaucoup.
Le foot.
Ouais.
Tu es un papa qui se sacrifie. Ouais. Ça y est, les rôles ont changé. Tu l'amènes au foot le samedi matin sous la pluie.
Ouais. Bah, en fait, il aime beaucoup le sport. Il joue au foot, il joue au tennis. Il suit beaucoup, il regarde beaucoup le sport à la télé. Plein de choses. Et il me pose plein de questions. Hier, il m'a posé une question. Il est tombé sur un match de championnat de France de basket. Et il me dit, mais pourquoi il y a beaucoup moins de points en Europe qu'au NBA ?
C'est une bonne question.
Ah, je savais que ça allait te plaire. Donc, j'essaye de répondre correctement à ce genre d'interrogation qu'il peut avoir. Et effectivement, il a une vraie passion, c'est le foot. Il peut neiger, il peut faire 35 degrés. Il aime jouer avec ses copains, être en équipe, performer. Mes parents l'ont fait pour moi. Je ne vois pas comment je ne peux pas le faire pour mon fils.
C'est quand même dur, non? Maintenant que tu es de l'autre côté.
On adapte certains départs en vacances, on adapte certains trucs, forcément. Mais oui, c'est pas évident.
Est-ce qu'il te dit « j'ai envie de devenir professionnel », truc comme ça?
Ouais. Ah oui.
C'est... Ah oui. Mmh. Foot ou tennis?
Foot.
Ah oui. Pas facile, hein?
Ouais, pour l'instant, c'est son truc. Alors, il nous dit « si je joue à Munich, vous venez habiter avec moi là-bas ?» Oh, ma femme lui dit, si c'est pour être Madrid ou Barcelone, je préférerais. Mais oui, on te suivra. Non, je pense qu'on parle de rêve d'enfant. Je pense qu'il ne le dit pas, mais son rêve le plus, c'est de devenir joueur au PSG ou je ne sais pas où.
Et il faut gérer sa frustration par moment.
Oui, c'est...
Lui apprendre à perdre.
Exactement. À mal jouer.
Ouais.
Lui apprendre à mal jouer. Là, samedi, je lui ai dit, il a mal joué, ils ont gagné. Ils ont fait un super match, mais il n'a pas très bien joué. Il me dit, non, ça va. Je lui ai dit, c'est pas grave, vous avez gagné, c'est le principal. Mais ouais, il faut apprendre. Mais quand ils sont petits. Alors, au foot, c'est plus facile à gérer qu'au tennis.
Pourquoi?
Ben, et moi, il me l'a dit, je lui ai demandé. Il m'a dit, mais papa, au tennis, je suis tout seul.
Ah ouais.
Et donc, c'est là où on s'aperçoit qu'à 8 ans, 8 ans et demi, la frustration que ça engendre, un sport individuel, elle est décuplée par rapport à un sport collectif, c'est sûr et certain.
Et si il se lance justement dans une jeunesse comme la tienne, de formation pour devenir professionnel, est-ce que tu penses que tu auras la même attitude que tes parents? C'est-à-dire, bah vas-y, puis on verra.
Je pense, je sais pas.
S'il te dit, dans 3 ans, je pars en pôle.
En centre de formation? Ouais, en centre de préparation. Ouais, on va réfléchir. Il faut, la condition sine qua non, c'est que les résultats scolaires soient toujours très bons. Pour moi, c'est comment dire, le deal entre guillemets que j'avais eu avec mes parents et il le sait. Je sais pas, je peux pas parler de l'avenir, mais j'ai tendance à dire oui.
On va surveiller ça.
On acceptera. Mais bon, on en est loin encore.
Oui, il est petit, mais bon, ça arrive vite. Hein.
Ouais. La route est longue, il y en a beaucoup qui jouent très bien.
C'est vrai qu'il y en a
beaucoup.
Et
il y en a beaucoup,
beaucoup
qui jouent très bien.
Tu penses que t'es un père comment?
Je suis un peu un père débile au foot.
Ah oh non.
Ouais.
Ah, c'est pas vrai.
Alors qu'au tennis, non, pas du tout. Puis au tennis, c'est différent parce que, enfin, je connais le truc, entre guillemets, etc. Mais là, et donc du coup, là maintenant au foot, on essaie de se calmer. On est 2-3 papas où. Mais ouais, je me laisse un peu prendre au jeu au foot.
C'est chaud quand même ça. Est-ce que t'as des rêves encore à réaliser, tu penses?
Oh, je... Oui. Enfin, des rêves, j'ai des objectifs élevés, ne serait-ce que pour 2024, dans mes fonctions avec, en étant responsable des filles, avec les jeux, avec une nouvelle campagne de Fed Cup. Et puis, j'ai du mal à me projeter un petit peu plus loin que ça, parce que... Bah parce que y a mon contrat, moi, s'arrête en fin 2024 avec la fédération et qu'après, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Mais oui, j'espère encore vivre de grandes émotions grâce au sport, au tennis, j'espère, et peut-être avec d'autres sports. Parce que ouais, c'est quelque chose qui est en moi, en fait.
Au moins, tu auras tes multiples écrans déjà pour faire tout ça. Alors, en général, on se quitte en musique.
Ah, je savais pas ça.
Ouais, mais justement, moi, j'aime la spontanéité.
J'écoute pas beaucoup de musique.
C'est pas vrai. Ouais. Si, un morceau que t'aimes bien.
Un des morceaux de Coldplay. Non, je dis n'importe quoi. Queen, Bohemian Rhapsody.
Ah ouais, pas mal. Un grand classique. Merci, Julien Beneteau.
Merci, Marie.
À bientôt,
Marie.
Pour suivre un podium, j'espère, d'une fille aux Jeux Olympiques.
Avec grand plaisir. Ouais, génial.